BW. Vue d'Allemagne.
Des espions partout. Plusieurs personnes ont été arrêtées ces derniers jours en Allemagne, soupçonnées d'espionnage pour le compte de la Chine. Il y a 50 ans, une autre affaire d'espionnage avait entraîné dans son sillage la démission d'un chancelier, Willy Brandt. Cette semaine, retour sur l'affaire Guillaume, un des plus gros scandales d'espionnage de l'Allemagne d'après-guerre. En deuxième partie, on vous emmène au musée d'Inhotim au Brésil pour visiter une exposition de l'artiste Grada Quilomba qui questionne l'esclavage et le colonialisme. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. Le 24 avril 1974, à 6h du matin, la police arrête Günther Guillaume à son domicile. L'assistant personnel du chancelier Willy Brandt est accusé d'espionnage au service de la RDA. Quelques heures plus tard, alors qu'il vient d'atterrir à l'aéroport de Cologne-Bonn de retour d'un voyage officiel, le chancelier est informé sur le tarmac par le ministre de l'Intérieur Hans-Dietrich Genscher. Il écrira plus tard dans ses mémoires avoir accueilli cette nouvelle comme un coup de massue. Deux semaines après, le 6 mai, le chancelier annonce sa démission.
Ce soir, j'ai présenté ma démission au président fédéral et assume la responsabilité politique et personnelle pour les négligences en rapport avec l'affaire de l'argent. Personne ne pouvait prendre cette décision à ma place.
Cela faisait 5 ans que Günther Guillaume travaillait auprès de Willy Brandt depuis l'élection de ce dernier comme chancelier en 1969. Mais ses activités d'espionnage remontaient à bien plus loin. Günther Guillaume et son épouse Christelle arrivent en RFA, l'Allemagne de l'Ouest, en 1956, officiellement comme réfugiés de la RDA, l'Allemagne de l'Est. Installé à Francfort, le couple tient un café et mène une vie apparemment sans histoire. Mais derrière cette façade se cachent deux agents formés par la Stasi, le service de renseignement est-allemand. Günther Guillaume s'engage dans la section locale du Parti social-démocrate, dont il monte petit à petit les échelons, notamment en montrant ses talents d'organisateur de campagne électorale. C'est comme ça qu'il est recruté en 1969 pour rejoindre l'équipe du chancelier nouvellement élu. Et pourtant, souligne Ulrich Pfeil, professeur de civilisation allemande à l'université de Lorraine-Metz, les services secrets de la RFA ont à l'époque déjà des doutes sur ses activités d'espionnage.
Ils ont intercepté des messages cryptés par la Stasi à Günther Guillaume, donc en RFA. Mais pour les services ouest-allemands, la grande question, c'était est-ce qu'on va rendre ça public ou est-ce qu'on garde pour l'observer, pour voir ce qu'il fait, pour ne pas montrer à l'autre côté, donc à la RDA, qu'on l'avait finalement déjà démasqué.
Pendant 5 ans, Günther Guillaume va donc régulièrement envoyer des informations à la Stasi sur les activités du chancelier de la RFA. Il est là lorsque Willy Brandt engage son pays dans l'Ostpolitik, c'est-à-dire vers la normalisation des relations avec l'URSS et les pays de l'Est. Nous sommes en pleine guerre froide, y compris avec la RDA. En mai 1973, les services ouest-allemands ont la preuve formelle que Günther Guillaume est bel et bien un agent. Les services préviennent le chancelier, mais laissent Günther Guillaume encore plus de 8 mois en poste. Durant l'été 1973, il peut ainsi accompagner le chancelier en Norvège à une conférence sur la sécurité en Europe et transmettre des documents classifiés à la RDA. Le flou a longtemps entouré l'importance des informations transmises par l'espion Guillaume, mais selon Ulrich Pfeil, les recherches ont montré que la plupart ne relevaient pas du plus haut niveau de sécurité. Si la révélation de l'affaire Guillaume est un coup de tonnerre à l'époque, l'historien souligne toutefois que la démission de Willy Brandt, qui avait été réélu triomphalement en 1972, a aussi d'autres raisons. À l'automne 1973, l'hebdomadaire Spiegel évoque déjà la chute possible d'un chancelier en crise qui laisse trop de place à son partenaire de coalition libérale. Pour Ulrich Pfeil, la démission de Willy Brandt révèle ainsi les faiblesses d'un chancelier contesté au sein de son propre parti social-démocrate.
Je pense que Brandt avait souhaité vraiment le soutien absolu du parti, et ce qu'il n'a pas eu. Et c'est ça qui était vraiment le moment déclencheur pour sa démission. Bon, on sait qu'il avait des phases où il avait des dépressions, déjà, donc en 73-14, la situation économique de l'Allemagne n'était pas glorieuse. Il y avait le chômage, il y avait la crise pétrolière. Donc il y avait plusieurs raisons qu'il faut évoquer pour expliquer finalement la démission de Brandt.
Une autre des hypothèses avancées, soutenue par les affirmations de la presse à scandale, c'est que Günther Guillaume avait de quoi faire chanter le chancelier, notamment parce qu'il lui fournissait des femmes. Au moment de la démission du chancelier, les journaux de la RDA n'évoqueront même pas le nom de Günther Guillaume et ils ont une bonne raison, selon Ulrich Feil.
RDA ne voulait pas la démission de Brandt. Il avait intérêt à garder Brandt à la chancellerie, mais aussi le Kremlin. Brejnev, à l'époque, avait des bonnes relations avec Brandt. La démission de Brandt, c'était un échec de la politique est-allemande et aussi un échec de la politique du Kremlin.
La personnalité de l'espion Guillaume est restée longtemps un mystère. Pour Pierre Baume, son fils, son père n'a jamais été un communiste convaincu. C'est ce qu'il confie à la Deutsche Welle en 2004, à l'occasion de la sortie de son livre « Le père étranger ».
Je suis convaincu qu'il avait vraiment deux identités. Il a passé 20 ans de sa vie, ce qui n'est pas rien, à servir deux maîtres. L'un était Marcus Wolf, le chef de l'espionnage de la RDA à l'étranger, et l'autre, qu'il vénérait également, était Willy Brandt. Et il était pris dans ce dilemme personnel. Je suis convaincu qu'il est resté fondamentalement étranger à lui-même.
Ulrich Feil est encore plus sévère sur la personnalité de l'espion qui a secoué l'Allemagne des années 70.
Günther Guillaume, c'était pas un John le Carré ou c'était vraiment pas un James Bond. C'était finalement un espion assez médiocre. Et c'est pour ça que l'intérêt pour Guillaume, c'est oui, à travers Brandt, mais finalement, je crois que son personnage n'est pas très intéressant.
Après son arrestation le 24 avril 1974, Günther Guillaume est condamné à 13 ans de prison, sa femme à 8 ans. Ils seront rendus à la RDA en 1981 dans le cadre d'un échange d'espions. Günther Guillaume finira ses jours en 1995 loin de sa femme divorcée et de son fils qui a quitté la RDA avant même la chute du mur. Vue d'Allemagne, deuxième partie et direction le Brésil et le musée d'art contemporain d'Inhotim, plus grand musée à ciel ouvert d'Amérique latine. Situé à une soixantaine de kilomètres de Belo Horizonte, la capitale de l'État du Minas Gerais, il abrite une collection permanente et des expositions éphémères faites d'œuvres monumentales dans un luxuriant jardin botanique. Notre correspondante Sara Cozzolino s'est rendue à l'inauguration de l'exposition de l'artiste portugaise Grada Quilomba, une œuvre à la fois visuelle et auditive qui questionne l'esclavage et le colonialisme. Voici son reportage.
Trois percussionnistes se positionnent à l'arrière de l'œuvre de Grada Quilomba. Au barco, le bateau représente le squelette d'un navire négrier. 134 blocs de bois calcinés sont disposés sur 32 mètres de longueur.
L'œuvre peut être interprétée comme une radiographie, une archéologie inversée de notre existence. Elle révèle et rend visible ce que les monuments qui nous entourent dans les espaces publics ne racontent pas.
À travers son œuvre, l'artiste noir aborde le thème de l'esclavage. Chaque poutre en bois minutieusement positionnée pourrait symboliser le corps d'une personne réduite en esclavage, couchée au fond du bateau. Ce bateau est le fruit d'une longue recherche de l'artiste qui explique que dans la cale, hommes, femmes et enfants ne disposaient que d'une vingtaine de centimètres au-dessus de leur corps pour respirer. Le Portugal a été le premier pays à avoir acheté et vendu des esclaves au début du XVe siècle.
Nous avons une énorme responsabilité. Nous avons été les premiers. Toute la richesse, toute la structure de l'Europe a été construite sur la base de ce projet énorme qui a été réduit au silence.
Tous les artistes impliqués dans ce projet sont noirs, aux origines géographiques différentes. Sur les poutres placées au centre du bateau, Grada Quilomba a écrit un poème en lettres dorées. Il est traduit en plusieurs langues et chanté par un chœur.
C'est important qu'on touche les personnes pour qu'elles sachent et qu'elles sentent combien nos ancêtres ont souffert. C'est très émouvant. Nous-mêmes, en pleine performance, nous avons la chair des poules. On ne peut pas rester indifférent.
Mick Trovoada est l'un des percussionnistes. Avant d'arriver au Brésil, l'œuvre de Grada Quilomba est passée par le Portugal et l'Angleterre. À Inhotim, elle sera déclinée en 3 actes. Le premier avec l'ensemble d'artistes venus du Portugal pour la performance. Puis plus tard, les musiciens, danseurs et chanteurs seront recrutés directement au Brésil. Camila Damian est pour l'instant la seule danseuse brésilienne du groupe. Mais en une semaine, elle se sent déjà très proche de ses collègues.
Quand ils chantent, je me détache complètement de ce qu'il se passe et j'entre dans un état de transe. Je me vois ailleurs, je me vois vraiment dans le bateau.
Pendant la représentation, l'émotion est visible sur les visages des artistes. Certains laissent leurs larmes couler. Walter Gonçalves est capverdien et vit depuis 13 ans à Lisbonne.
À chaque fois que je touche ces poutres, je sens l'énergie de ces personnes. En touchant le bois, je m'y vois. Je me vois en train d'aider ces personnes qui sont en train de couler ou bien d'être arrachées à leur terre.
Walter a été remarqué par Grada alors qu'il travaillait dur en plein soleil pour le montage de cette exposition au musée Matt de Lisbonne en 2021. Elle a tenu à ce qu'il fasse partie de l'œuvre.
Moi, pauvre Lisboète, jamais je n'aurais imaginé participer à l'œuvre d'une grande artiste comme Grada Quilomba. Elle a vu quelque chose en moi que je ne voyais pas. Jamais je n'aurais pensé pouvoir apparaître devant les caméras et faire partie de cette œuvre incroyable qu'est le bateau.
Entre 1550 et 1888, 4 millions de personnes ont été arrachées de leur terre en Afrique pour devenir esclaves au Brésil. Une histoire encore très présente dans la société actuelle. Nayara Leitch est une jeune comédienne noire de la région du Minas Gerais. Elle a été très émue par la performance.
Les personnes blanches doivent voir ce genre d'œuvre. Elles doivent s'informer, écouter les chants, voir le bateau, faire le tour, pour avoir ne serait-ce qu'une goutte, qu'un pour cent de toute cette douleur, cette souffrance qu'on subit jusqu'à aujourd'hui.
Après avoir été exposée dans les pays colonisateurs, la présence de l'œuvre au Brésil a une saveur et un accueil différents, selon Selma Wamus, chanteuse du chœur.
Il y a une espèce de fraternité qui nous unit, qui nous donne un sentiment d'appartenance, comme si on faisait partie de la même famille. C'est très intéressant. Même quand on regarde les habits, par exemple, comment les personnes s'habillent, quelles sont leurs influences musicales. Quand on est arrivé ici, on s'est senti à la maison.
Avec son œuvre multisensorielle, Grada Quilomba cherche à éveiller les esprits sur les questions racistes et coloniales au sein de grandes institutions culturelles.
Quels sont les corps qui tombent au sol? Quels sont les corps dont on se souvient et ceux qu'on oublie? Quels sont les corps qui sont importants et ceux qui ne le sont pas? Je ne suis pas là pour donner des réponses, mais plutôt pour créer des questionnements.
À la fin de l'exposition, chanteurs, danseurs et percussionnistes se rassemblent pour remercier Grada Quilomba. Le bateau leur aura permis une véritable aventure collective. Sara Cozzolino de retour de Inhotim pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!